La République islamique d'Iran reste la bête noire des États-Unis depuis leur rupture de leurs relations diplomatiques en 1980. Après un timide rapprochement opéré sous l'ère Obama à la faveur de l'accord sur le nucléaire iranien, les relations se sont tendues depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Donald Trump qui, dès son arrivée au pouvoir, fait de l'Iran l'un des 7 pays musulmans touchés par le Muslim Ban. Plus tard, en juillet 2017, les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions pour punir l'Iran en raison d'activités militaires au Moyen-Orient, tout en maintenant l'accord international sur le programme nucléaire de Téhéran. Dans le même temps, en mai 2017, la réélection de Hassan Rouhani avec 58,13% des voix à la tête de la République islamique d'Iran a eu lieu. Tout cela ajouté à des manifestations, vagues de rassemblements disparates et de faible importance qui ont eu lieu en décembre-janvier dernier. Nous en avions parlé avec vous, Jonathan Piron, bonjour. Vous êtes conseiller à la prospective chez Etopia et spécialiste de l'Iran. Alors justement, comment traduire cette année et demie de pouvoir de Donald Trump et indirectement donc les relations Donald Trump-Hassan Rouhani, États-Unis-Iran?
Donc, on assiste à la fin d'une séquence dans laquelle on avait vu, sous la présidence Obama, les États-Unis donc ouvrir la main à des négociations sur le nucléaire avec l'Iran et faire preuve, en fait, de négociations comme il n'y en avait plus eu depuis la révolution islamique. Donc, c'était d'ailleurs une volonté très forte affichée par l'ancien président américain d'essayer de trouver une solution à la crise sur le nucléaire, crise qui remontait au début des années 2000 et qui avait vu toute une série de sanctions votées par l'ONU. Et qui ouvrait d'ailleurs aussi un danger qui était celui de voir l'Iran se sentir de plus en plus menacé et donc s'engager dans la prolifération nucléaire avec tous les risques que l'on sait. Même si on a certains doutes, en tout cas sur cette volonté d'acquérir des armes nucléaires, on pourrait peut-être plutôt parler de l'envie de l'Iran de devenir un état du seuil, c'est-à-dire un état qui est capable donc d'acquérir des armes nucléaires et donc qui d'une certaine manière est ainsi sanctuarisé. C'était aussi une volonté très forte de la part de l'ancien président américain qui l'a vu également alors être moins présent dans certains autres dossiers, notamment dans le dossier syrien, puisque toute sa volonté était d'obtenir un accord donc sur le nucléaire. On est complètement dans une autre séquence depuis l'élection de Trump à la présidence, et c'est un côté beaucoup plus ultra-conservateur dans les relations entre les États-Unis et l'Iran qui est maintenant en place du côté de Washington, avec Trump évidemment qui, dès sa campagne électorale, affirmait que l'accord avec l'Iran, l'accord sur le nucléaire, était un des pires accords jamais conclus. Et ce qui est intéressant aussi, et ce qui est même nécessaire quand on étudie la politique étrangère, c'est de voir quelles sont les personnes dans l'entourage de Donald Trump et quels sont justement ses conseillers qui vont pouvoir essayer soit d'infléchir, soit d'encourager ses positions et ses décisions. Et quand on voit les différentes nominations, les différentes divisions qui ont eu lieu ces dernières semaines, avec notamment au secrétariat d'État l'arrivée de Mike Pompeo et avec John Bolton qui est devenu maintenant le nouveau conseiller à la sécurité nationale, eh bien ces deux personnages sont parmi les plus durs à l'égard de l'Iran. Bolton d'ailleurs a appelé dans le passé à ne pas hésiter à s'en prendre militairement, à faire des frappes préventives contre la République islamique. Ce sont également des personnes, dans le cadre de John Bolton, qui sont proches des Moudjahidines du peuple iranien, qui était une ancienne organisation reconnue comme terroriste par les États-Unis, qui est particulièrement détestée en Iran et qui milite ouvertement pour un changement de régime dans le pays. Et donc on voit que petit à petit, en fait, se met maintenant en place aux États-Unis une musique qui est résolument dirigée contre le pouvoir de Rouhani, contre le pouvoir de la République islamique, et qui, à tout le moins, souhaite que l'accord sur le nucléaire soit complètement abandonné et que de nouvelles sanctions soient votées donc contre Téhéran.
Oui, est-ce que cela signifie que les jours les plus sombres s'annoncent désormais? Plus directement, les États-Unis vont-ils se retirer de cet accord sur le nucléaire iranien?
C'est très difficile de dire ce qui va se passer parce que les spécialistes des relations internationales n'ont pas une boule de cristal qui leur permet de dire exactement ce qui va arriver.
Mais en attendant,
voilà. Et puis, mais en tout cas, l'accord sur le nucléaire est dans une position qui est très instable. Il semblerait en effet que tous les marqueurs s'allument pour démontrer que les Américains ont la nette envie de s'en retirer. Donc Trump ne s'en est jamais caché et quand il a dû par deux fois revalider l'accord, il a fait de très mauvaises grâces. Poussé justement par ses conseillers qui essayaient de démontrer que l'accord était quand même nécessaire. Donc ici, on se retrouve dans une situation où les différentes murailles, les différents filtres qui lui permettaient justement d'essayer de continuer à valider l'accord ont disparu. Et donc, il est certainement plus que probable que les Américains vont s'en retirer. Tout va dépendre maintenant, en fait, de la réaction des Européens, qui sont l'autre grande partie qui a mis énormément de travail pour essayer d'obtenir cet accord, et aussi et surtout de la réaction des Iraniens. Ils pourraient très bien se contenter du maintien des Européens, même si on sait que par toute une série d'autres mécanismes de sanctions, ce qui était le sens même de l'accord nucléaire, à savoir notamment la levée des sanctions économiques, le retour d'investissements étrangers, pourrait se retrouver mis entre parenthèses, et donc les Iraniens pourraient très bien considérer que ça ne sert plus à rien de continuer, donc même avec les Européens.
Oui, et quel serait l'intérêt pour les États-Unis, pour Donald Trump et pour l'ensemble de son establishment de se retirer d'un tel accord?
Mais il faut voir deux angles. Donc, il y a déjà l'angle de politique intérieure. Ce que Trump essaye de faire, c'est de s'affirmer comme ce que Obama n'a pas été, c'est-à-dire un président avec un leadership fort, un charisme, qui fait ce qu'il dit. Comme il a affirmé d'ailleurs à de nombreuses reprises qu'il souhaitait se retirer d'accord sur le nucléaire, il s'affirme donc vraiment comme un chef. En tout cas, il veut se montrer comme tel à l'égard de son électorat. Il y a aussi au sein de Washington et de tout ceux qu'on retrouve autour de Donald Trump, des lobbies très puissants qui sont assez hostiles à la République islamique. C'est par exemple tous ceux qu'on retrouve autour de l'AIPAC, qui sont les principaux lobbies qui soutiennent Israël. On retrouve également d'autres groupes de pression qui sont proches de l'Arabie saoudite. Et on sait que ce sont deux États qui verraient d'un très bon œil justement un changement de régime également du côté de la République islamique. Et puis on se retrouve aussi dans un contexte international qui est celui d'une recomposition du Moyen-Orient avec de nouveaux pouvoirs, en tout cas de nouveaux héritiers qui arrivent toujours de haut pouvoir, notamment le prince Salman, qui était encore récemment à Washington et qui joue un rôle très fort de pression aussi auprès des États-Unis pour que cet accord soit mis par terre, puisqu'on est aujourd'hui dans ce qu'on a envie d'appeler communément une guerre froide entre l'Iran et l'Arabie saoudite au Moyen-Orient. C'est une quête de leadership, en fait, pour que soit l'un, soit l'autre deviennent l'État qui domine la région. Et ce sont toute une série, en fait, de théâtres d'opérations interposés qui font aujourd'hui l'objet de la confrontation entre les deux États. Et l'accord sur le nucléaire est également l'un de ces théâtres d'opérations.
Et alors là, bon, pure politique fiction, Jonathan Piron. Demain, donc, les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien. L'Iran peut-il ou a-t-il les moyens de procéder à de nouveaux essais nucléaires?
Mais l'Iran n'a pas procédé à des essais nucléaires. Ce qui se passe aussi quand on voit les différentes inspections qui ont été menées aujourd'hui par l'AIEA, donc depuis 2015 et depuis que l'accord a été signé, depuis sa mise en place aussi de janvier 2016, c'est que l'Iran a à chaque fois respecté les différentes conventions, les différentes lignes qui ont été dressées dans l'accord. Donc, il n'a été en fait en dehors de l'accord qu'à deux petits moments, notamment en août 2016, quand sa production d'eau lourde a très légèrement dépassé le quota qui était imposé par l'accord. D'ailleurs, pour l'anecdote, le quota, le surplus a été racheté par les États-Unis. Maintenant, si en effet l'accord tombe, que les Iraniens décident de le rompre également de leur côté, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va se retrouver directement avec une relance des centrifugeuses, une relance de la production nucléaire? C'est ce que les Iraniens affirment, notamment en prétendant qu'ils pourraient très bien essayer de repartir avec des productions de centrifugeuses qui sont beaucoup plus élevées. On pourrait aussi se retrouver avec toute une série d'inspections qui seraient donc fermées, avec des sites qui pourraient être aussi à nouveau cachés de la part des Iraniens. Il faut se rendre compte aussi que c'est une situation qui mettrait en très grande difficulté le président Rouhani, puisque les ultra-conservateurs n'auraient de cesse alors de dire que, mais regardez, vous avez voulu négocier avec l'Occident, vous n'y êtes pas parvenu, ce sont encore une fois des ennemis, nous vous l'avons bien dit, nous devons revenir à une politique plus forte qui est celle d'une politique de la résistance contre l'Occident. C'est un discours qui est très fort, notamment du côté des ultra-conservateurs en Iran et qui insiste un peu sur cette vision du complot, sur cette haine de l'Occident qui sert leur discours. Donc il y a quand même plusieurs pas et plusieurs étapes avant d'acquérir une arme nucléaire. Il faut encore aussi voir comment d'éventuelles frappes pourraient être menées. On est beaucoup dans la politique fiction. Donc, l'Iran ne va pas du jour au lendemain pouvoir produire une arme nucléaire. Ça dépend aussi énormément de techniques à acquérir et aussi d'une volonté claire de dépasser ce qu'on appelle le seul nucléaire pour devenir véritablement un État qui dispose de l'arme nucléaire. Donc ça, il faudra certainement compter encore avec plusieurs mois, voire des années, si l'Iran décide de s'y lancer pour y parvenir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on se retrouvera dans une nouvelle zone d'instabilité régionale. C'est un foyer, un conflit supplémentaire qui arriverait donc dans cette région qui est déjà particulièrement déstabilisée. Et c'est aussi un risque de prolifération nucléaire qui pourrait ouvrir la voie à un démantèlement du TNP, qui est le traité de non-prolifération nucléaire qui régit pour le moment justement la prolifération mondiale, avec des États comme l'Arabie saoudite qui pourraient très bien aussi décider de se lancer dans la prolifération nucléaire. C'est une déclaration récente d'ailleurs qui avait été faite par les autorités saoudiennes. Pourquoi pas les Turquies? Pourquoi pas d'autres États? Et donc avec une relance de la prolifération qui serait particulièrement dangereuse pour l'équilibre régional et mondial.
En tout cas, pour Hassan Rouhani, si les États-Unis violent cet accord, ils le regretteront. C'est ce qu'il a déclaré lundi 9 avril à l'occasion de la journée nationale de la technologie nucléaire dans le pays.
En effet, donc ça c'est aussi un discours de politique intérieure. Hassan Rouhani sent qu'il est en difficulté, il est aussi remis en difficulté pour ses politiques économiques qui ne parviennent pas à rejoindre les différentes promesses qu'il avait proposées durant sa campagne électorale. Et donc il est obligé, lui aussi, par rapport à son électorat, mais aussi par rapport à la frange ultraconservatrice, de s'affirmer comme un leader fort et donc de démontrer qu'il ne va pas se laisser faire par les États-Unis. Donc on ressort encore une fois les vieux symboles et les vieilles marottes, aussi bien du côté de Washington que du côté de Téhéran, qui permet de dire, mais regardez, je suis quand même un président qui permet de défendre les intérêts nationaux, aussi bien du côté américain que du côté iranien. Et donc on a une escalade aussi de déclarations symboliques qui vont se réaliser dans les prochaines semaines pour affirmer que chacun est vraiment droit dans ses bottes et est le plus à même de défendre les intérêts du pays.
Et alors justement, voilà, on parle beaucoup de la stratégie américaine, mais quid, Jonathan Piron, de cette fameuse stratégie iranienne? Y a-t-il une volonté expansionniste, anti-américanisme primaire ou aventurisme anti-sioniste dans les stratégies iraniennes?
On a souvent l'habitude de considérer, notamment en matière de politique étrangère, qu'il y a un bloc hégémonique en fait à la direction d'un pays et que la plupart des acteurs au pouvoir avancent de manière concertée. Or, ce qui est important, c'est de voir en fait quels sont les groupes qui sont en place et comment ces groupes vont s'influencer réciproquement pour essayer d'influencer les décisions à prendre. Dans le cadre de l'Iran, il y a notamment plusieurs sources qui ont été écrites, notamment de la main du président actuel Rouhani, qui nous montrent en fait que les différentes décisions politiques étrangères se font souvent par consensus et avec un consensus par le bas, et qu'il y a toute une série d'arbitrages qui se font en coulisses, avec également des jeux d'influence qui, parfois, amènent la République islamique à prendre des directions, des décisions qui sont dans des directions opposées que celles auxquelles on est parfois habitué de l'entendre. Donc, la politique étrangère de l'Iran est avant tout celle qu'on pourrait reconnaître autour d'une volonté de défendre ses frontières et d'essayer justement de déplacer cette frontière de plus en plus loin. D'avoir donc une politique de voisinage dans laquelle il va essayer de jouer un rôle parfois déstabilisateur, notamment on le voit en Syrie, on voit en Irak, mais pour essayer justement de repousser la menace le plus loin possible de ses frontières. Ce qui reste très important dans la manière dont la politique étrangère de l'Iran s'écrit, notamment à l'intérieur du pays, c'est ce qu'on appelle la défense sacrée, et qui se retrouve notamment à partir des concepts liés à la guerre avec l'Irak dans les années 80, qui est toujours ressenti en fait comme étant la principale menace, l'exemple même des menaces auxquelles l'Iran est confronté aujourd'hui. Donc l'Iran cherche non seulement à récupérer son pôle de puissance régionale telle qu'il existait avant 1979. Il y a quand même des éléments déterministes qu'on retrouve donc depuis plusieurs décennies dans le cadre des décisions prises par des politiques étrangères iraniennes. Mais il y a aussi cette volonté de repousser au plus loin les menaces, parce que l'Iran se considère, en tout cas les défenseurs du régime de la République islamique, se considèrent comme menacés. Et donc ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est d'acquérir notamment les moyens pour assurer leur défense, que ce soit des missiles balistiques, mais aussi, encore une fois, d'essayer de repousser au plus loin la menace pour éviter donc de se faire envahir, que ce soit par les États-Unis ou par l'Arabie saoudite.
Alors, Jonathan Piron, Hassan Rouhani a donc été réélu en mai dernier pour un nouveau mandat avec une majorité, une bonne majorité même. Quel est son premier bilan? Quel bilan tirer de cette première année du second mandat d'Hassan Rouhani?
Elle est assez difficile puisqu'on a vu notamment avec les différentes manifestations de décembre et janvier dernier que les questions économiques et sociales occupent encore une fois le devant de la scène. Et d'ailleurs, les derniers jours ont encore été difficiles pour Hassan Rouhani d'un point de vue économique. C'est que le rial est en train de perdre de plus en plus de poids face au dollar et que l'économie ne se relance pas, même si l'inflation reste stable. Donc la question du chômage reste très importante. Et la question aussi de la place des jeunes, de leur avenir, reste aussi quelque chose qui traverse la société iranienne aujourd'hui, qui est plus fragmentée, plus fracturée qu'on ne le croit d'un point de vue extérieur. Donc ce bilan est très fortement en demi-teinte. Il y a énormément d'espoirs qui sont déçus, il y a encore des promesses qui sont en attente, et l'environnement régional n'est pas non plus très rassurant pour l'Iran. On se rappelle que l'année dernière, la ville de Téhéran a été frappée par des attentats commis par l'État islamique, ce qui a aussi pas mal bousculé les habitants du pays. Donc il y a une espèce en fait d'incertitude sur l'avenir qui est vécu aujourd'hui par la société iranienne, avenir par rapport à ce qui va arriver de l'extérieur, donc les menaces, mais aussi par rapport à qui va arriver de l'intérieur. Donc la République islamique, qui va fêter l'année prochaine son 40e anniversaire, se retrouve en fait dans une situation un peu instable. Elle s'interroge beaucoup justement sur la manière dont la population va évoluer, donc les réponses aussi aux attentes économiques, sociales, politiques et culturelles vont être résolues. Et donc on se retrouve en fait dans une période d'un Iran incertain, dont énormément de scénarios peuvent se dessiner donc dans les mois à venir, dans les années à venir par rapport à son avenir, mais dont on n'a pas vraiment encore de certitude quant à la manière dont la société iranienne va évoluer.
Oui, le grand ennemi de la région, c'est bien sûr l'Arabie Saoudite, qui a donc levé son plan 2030, soutenu par Mohamed Ben Salman, le prince héritier, qui était d'ailleurs cette semaine en visite à Paris. Où voyez-vous l'Iran à horizon 2030?
Mais l'Iran, à moyen et à long terme, va être confronté à des défis qui vont être des défis physiques et des défis naturels, liés notamment à la question du réchauffement climatique et aussi à toute une série d'épuisements des ressources naturelles, par exemple les ressources en eau, qui sont en train de causer de plus en plus de problèmes aussi bien à l'État qu'au pays. Par exemple, il y a dans certaines régions près de l'Afghanistan, mais également près de la frontière avec le Pakistan, je pense au Sistan-Béloutchistan, des villages qui pour le moment sont abandonnés parce que les ressources en eau se sont taries et donc les agriculteurs n'ont d'autre choix en fait que de migrer vers des villes moyennes pour essayer de trouver donc des moyens de subsistance, que ce soit un travail ou que ce soit des services publics. Et donc à l'horizon 2030, différents experts iraniens, d'ailleurs différentes universités, tablent que les phénomènes migratoires vont augmenter si rien n'est fait. Et que d'ailleurs d'ici la fin du siècle, ce serait à peu près 70 voire 75% de la population iranienne qui serait obligée d'entamer également cette migration vers des villes moyennes. Donc la menace principale en fait à cet horizon, c'est comment est-ce que ces différentes tensions sur les ressources vont être résolues. C'est aussi, en plus de la question de l'eau, un phénomène de désertification. C'est aussi la question des tempêtes de poussière qui sont particulièrement difficiles dans certaines régions et qui entraînent parfois à Téhéran la fermeture des services publics et des écoles tellement ces tempêtes sont agressives et qui vont en fait nécessiter des réponses régionales. Dans le cas des tempêtes de poussière, ce sont des phénomènes qui viennent d'Arabie Saoudite mais également de Syrie. Dans le cas des épuisements en eau, ce sont aussi des situations liées à des nappes fertiles qui s'épuisent, des suites des conflits, notamment avec l'Irak, mais également avec l'Afghanistan. Et donc, en fait, les défis, ce sont des défis qui se posent pour l'Iran, mais aussi qui se posent sur le Moyen-Orient et qui vont nécessiter une nouvelle forme de coopération parce que les États ne vont pas pouvoir s'en sortir eux-mêmes. Et donc, on se retrouve justement dans cette situation où, si le Moyen-Orient, si les différents États de la région veulent se dégager un avenir, ils vont devoir le faire en commun. Parce que la question de ces impacts climatiques dépasse les frontières et donc on ne va pas se retrouver dans une situation où une seule capitale pourra s'en sortir et pas une autre.
Et évidemment, et avec les États-Unis, c'était un petit peu le thème originel de notre interview, les États-Unis et l'Iran, en tout cas pour les trois prochaines années, resteront dans des relations plus que compliquées.
Ça, c'est certain. Il n'y a pas vraiment d'ouverture qui pourrait se manifester du côté de Washington, même si on fait un peu de politique fiction, dans l'éventualité d'un impeachment qui aboutirait contre Donald Trump, l'entourage qui se retrouve au sein de la présidence est quand même majoritairement hostile à Téhéran. Et donc, les trois prochaines années, en effet, ne vont pas être les années les plus optimistes pour un réchauffement des relations entre l'Iran et les États-Unis.
Oui, et le récent départ de Rex Tillerson, donc, qui était l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères en France, est-ce que le départ de Rex Tillerson va empirer la situation? Bon, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais...
Mais son successeur, Mike Pompeo, voilà, c'est une personne qui est résolument hostile, ouais, à la République islamique. Et donc, en effet, les différentes personnes qui ont remplacé donc les personnes démissionnaires ces dernières semaines et ces derniers mois sont à chaque fois des faucons qui ont des attitudes particulièrement dures dans la manière dont les États-Unis doivent diriger leur politique étrangère. Cela vaut pour l'Iran, mais cela vaut aussi pour la Corée du Nord, par exemple. Et donc, l'optimisme n'est pas de rigueur pour le moment, même si, encore une fois, la manière dont une politique étrangère se décide se définit à partir de toute série de pressions et de jeux d'acteurs qui se font parfois en coulisses et qui parviennent parfois à se neutraliser les uns les autres et aboutir donc à une situation bon an mal an de statu quo. Mais néanmoins, le pessimisme concernant l'accord nucléaire sur l'Iran doit être de rigueur.
Merci beaucoup, Jonathan Piron, d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Historien, politologue, spécialiste donc du Moyen-Orient et de l'Iran. Et on peut vous lire sur le site internet d'Etopia, etopia.be.